Vous écoutez France Culture. Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonsoir à tous. Ce soir, les cours du Collège de France. Pierre-Étienne Ville, titulaire au Collège de France de la chaire d'histoire de la Chine moderne, est maintenant, après 23 années d'enseignement, professeur honoraire. Dans sa leçon inaugurale, prononcée le vendredi 3 avril 1992, il précisait que, dans l'intitulé de sa chaire, il entendait par « modernité », notion qu'il a d'ailleurs contribué à remanier, je cite. Je dirais qu'on est fondé à parler de modernité dès lors que l'on constate, dans l'histoire d'une culture, des changements structurels dont la définition minimum pourrait être qu'ils sont irréversibles, qu'ils constituent un ensemble dont les parties se répondent de niveau à niveau, qu'ils impliquent des rapports qualitativement différents entre les hommes, les institutions et les éléments de la vie matérielle, et enfin, et surtout, qu'ils engagent la société où ils se produisent vers plus d'efficacité, d'intégration, de prévisibilité, de productivité, d'initiative et de prospérité partagée. Par son érudition, Pierre-Étienne Ville nous a permis de rencontrer une Chine vivante et contraire à tous les préjugés, en prenant comme fil conducteur de ses cours des personnes physiques, ingénieurs, administrateurs, philanthropes, etc., qui travaillèrent en Chine, il nous a plongés dans la vie de ce monde si proche et si lointain. Parce qu'il est historien, Pierre-Étienne Ville nous a permis de connaître le monde chinois, aussi bien au télescope qu'au microscope, des structures étatiques, bien sûr, des crises naturellement, et des individus bien concrets, aux prises avec des événements parfois apocalyptiques. Mais ouvrons cet entretien sur une question d'actualité. Pierre-Étienne Ville, comment les universités chinoises se portent-elles aujourd'hui et sur quoi les savants et les professeurs y travaillent-ils?
Je pourrais vous l'illustrer en comparant la situation que j'ai vue, mais d'assez brièvement, mais enfin que j'ai quand même bien vue, lors de mon premier voyage d'échange professionnel, donc dans un cadre universitaire en Chine, c'était en 85. Donc c'était au sortir de... C'était une période assez intéressante d'ailleurs, mais enfin c'était malgré tout pas si loin de la... C'était le début de la démaoïsation, disons. Donc entre cette période et aujourd'hui, c'est vraiment ce sont deux mondes différents, au sens où en 85, et avec un héritage quand même assez long, je veux dire un héritage sous le régime précédent qui à cette époque était quand même depuis 30 ans. À cette époque, d'abord les rapports avec l'étranger étaient étroitement encadrés. Il n'était pas question d'aller faire des recherches ou rencontrer des gens en dehors d'un cadre officiel, qui dans le cas de la France, il y avait des accords d'échange entre les affaires étrangères et puis l'Académie des sciences sociales. Donc on était accueillis, cornaqués, logés, on vous organisait des visites et à cette époque, des échanges libres avec des collègues étaient quand même relativement limités. D'autre part, nos collègues chinois universitaires à l'époque étaient des gens pauvres. C'était des gens qui avaient peu de moyens matériels, qui la plupart du temps travaillaient dans des locaux assez minables et qui donc il y avait un problème de ce côté-là dans les relations. Aujourd'hui, ce serait plutôt l'inverse. L'argent n'est pas un problème. C'est ça qu'on vous dit quand on envisage des coopérations, des projets communs et au contraire, la Chine et le régime en particulier et ne demande qu'à financer, être là, je veux dire à l'étranger, etc. Enfin, vous connaissez l'histoire des instituts Confucius.
Et vous voulez dire, pardon, Pierre-Étienne Ville, que les universités chinoises sont riches ?
Pas toutes, mais certaines, oui. Certaines vivent maintenant sur un pied...
Américain ?
Je sais pas, mais enfin, en tout cas, elles vivent mieux que les nôtres. Du point de vue... Mais je parle d'une élite... dans ce que je connais, je parle d'une un peu du haut du panier. Hein. Mais enfin, les grandes universités pékinoises ou shanghaïennes et certainement d'autres que je ne connais pas, maintenant, construisent des nouveaux locaux. Enfin, mes collègues scientifiques disent qu'ils ont constitué, édifié des laboratoires et des infrastructures tout à fait modernes. Les bibliothèques sont extrêmement bien dotées, fonctionnent bien. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'environnement extrêmement austère et vraiment une certaine culture de la pauvreté que j'ai vue en 85, mais qu'on voyait encore plus à l'époque des premiers échanges d'étudiants, cette fois-ci dans les années 60 et 70.
Alors sur quoi vos collègues directs, les historiens de la Chine, travaillent-ils, Pierre-Étienne ?
Ils travaillent absolument... Bon, il faut voir d'abord que le volume du travail de recherche en Chine est immense, est énorme par rapport à ce que nous faisons, non seulement en France ou en Europe, mais même en Amérique, où il y a beaucoup plus de gens qui travaillent sur ces domaines, enfin en nombre. C'est un très grand pays, c'est leur culture, c'est leur histoire, et donc le nombre de publications de chercheurs, de la masse des enseignants, la masse des étudiants dans le domaine de l'histoire chinoise sont sans commune mesure. Il n'y a qu'un seul pays qui peut un petit peu se comparer, toute proportion gardée, me semble-t-il, c'est le Japon, où les études chinoises sont de longue tradition, d'ailleurs, un domaine extrêmement important, et non pas un domaine chez nous reste un peu marginal, oui. Même si on fait beaucoup de choses.
Je veux dire, est-ce que les publications sont libres ? Est-ce que les recherches sont libres également ? Est-ce que les relations, justement, qui étaient un peu contrôlées, disiez-vous, au début, dans les années 80-85, oui. Est-ce que les relations avec les collègues étrangers se sont ouvertes complètement ? Y a-t-il des contraintes de publication ? Est-ce que c'est un pays sous surveillance ? Ou est-ce que l'érudition, la recherche, le travail est libre, entièrement libre et ouvert ?
Oui, il y a beaucoup plus. Il y a une liberté incomparablement plus grande et presque complète dans le domaine de l'érudition, ça c'est sûr. D'autre part, je partais du contraste entre 85 et aujourd'hui, enfin 85 ou disons les années disons qui séparent la fin de la révolution culturelle de Tiananmen. Si vous, ça définit une période quand même assez relativement cohérente. Entre cette période et aujourd'hui, la grande différence, c'est que je me souviens très bien que dans les conversations qu'on avait à l'époque, les gens continuaient à parler, la plupart, pas tous, mais la plupart, à parler marxiste. Dans le vocabulaire, les expressions traditionnelles, qui est traditionnelle depuis 49 et même depuis avant, dans une certaine tradition historiographique de gauche, peu à peu disparaissait du discours, de même qu'on avait cessé de penser en termes dans les termes traditionnels toujours traditionnels, comme je l'ai dit, de classe, de conflit de classe pour expliquer tout. D'autre part, un certain nombre de paradigmes ont perdu de leur popularité, ou en tout cas de leur correction politique. Aujourd'hui, on ne vous parle plus guère de rébellion paysanne et de choses comme ça, alors que c'était des sujets... Tout était envisagé suivant une vulgate marxiste, dont assez peu de gens réussissaient à sortir, sauf alors pour faire de l'érudition pure et gratuite. Ce qu'on continue à faire, bien sûr. Oui, ce qu'on continue à faire. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Il y a eu entre-temps en Chine, d'abord, il y a eu un nombre considérable de jeunes chercheurs qui sont allés en Occident, et surtout en Amérique, pour étudier, pour faire des thèses.
Est-ce que c'est facile de sortir du pays ?
Oui, non. Là, il y a eu la Chine s'est vraiment projetée au dehors, oui. De ce point de vue-là. Et ça a beaucoup changé. les façons de parler, de travailler, l'approche intellectuelle des choses. C'est assez intéressant parce qu'on a, avec un décalage d'à peu près 20 ans, on voit maintenant en Chine, enfin depuis quelque temps, l'apparition de modes intellectuels qui viennent d'Amérique, postmodernisme ou tout ce que vous voudrez, qui sont réputés être d'origine française, et en partie, qui maintenant envahissent un peu le discours. Une des conséquences d'ailleurs, soit dit en passant, c'est que une bonne partie de la littérature académique en chinois est beaucoup plus difficile à lire. Enfin, elle tombe facilement dans un jargon derrière lequel il faut deviner les originaux anglais. Alors que autant la langue écrite chinoise traditionnelle est un modèle d'économie et d'efficacité, à mon avis, autant il faut vraiment souvent se prendre la tête entre les mains pour suivre des phrases énormes avec des concepts bizarroïdes. Je ne veux pas généraliser, mais ça arrive souvent. Et ça rend souvent la lecture des textes académiques ou universitaires un peu pénible. C'est la même chose à Taïwan. Il y a un phénomène de mondialisation d'un certain nombre de modes intellectuels qui est assez intéressant à étudier et qui touche de plein fouet la Chine académique, disons.
Est-ce que la Chine académique passe par l'imprimatur du parti ou...
Écoutez, je ne connais pas les règles. Oui, je crois qu'on ne peut pas publier sans avoir un accord de l'éditeur qui lui-même est soumis à l'accord de je ne sais quel comité ou entité politique. Oui, le parti contrôle tout de façon ultime. Simplement, pour avoir des problèmes, il faut vraiment aborder des questions de société contemporaine, des questions qui ont un impact politique immédiat. Et alors là, en effet, il y a eu des ouvrages, même historiques, pas très nombreux, je crois, mais qui ont dû être imprimés à Hong Kong, qui ont été censurés, on peut le dire. Dans le détail, je ne saurais pas vous dire, je pourrais vous donner l'expérience de certains travaux en chinois, mais faits par des Français, donc et publiés en Chine. En particulier par l'intermédiaire, il y a une implantation de l'école française Extrême-Orient à Pékin qui est extrêmement active et qui a monté des programmes de publication et qui entretient des contacts assez constants et assez actifs avec un certain nombre de milieux universitaires en Chine et à Pékin en particulier. Et pour publier certaines choses, on a pu voir qu'en effet, de façon en quelque sorte automatique, les éditeurs rayaient certains mots ou disaient « ah non, ça on peut pas le dire », etc. C'était, comment dire, un fait de la vie. Hein. Pour eux, ça ne tirait pas à conséquence. Et alors que nous pouvons avoir tendance à accorder au contraire un grand poids à certaines expressions. Je vous donne un exemple. Je me souviens plus exactement où c'était, mais je sais que mes collègues plutôt avaient eu ce problème dans un. Est-ce que c'était dans un article ou l'introduction à un volume ou quelque chose? On parlait de la tragédie de Tiananmen ou du massacre de Tiananmen et la réaction de notre éditeur, c'est-à-dire éditeur au sens le collègue avec qui nous sommes d'ailleurs très très extrêmement amis, nous avons des relations très étroites, très régulières, qui était un des responsables d'une grande maison d'édition à Pékin, nous a simplement dit mais il y a pas de tragédie, il y a eu un incident, il y a eu je ne sais plus quel est le terme officiel, mais donc c'est des choses qu'on n'écrit pas et ça passe pas.
Voilà,
ça passe pas.
On dit pas la tragédie, on dit les incidents. De
oui, ou on dit. Voilà, je vous avoue que j'ai oublié quelle est l'appellation officielle du massacre de Tiananmen. Ouais. Hein. Et c'est un exemple extrême, mais ça vous montre encore une fois que c'est uniquement les choses qui ont un impact réellement politique qui peuvent être en effet soulever des problèmes.
Il y a des Chinois qui sont revenus, exilés, qui sont retournés en Chine.
Oui, bien sûr.
Aujourd'hui,
il y a certainement eu des retours. Bien sûr. Des gens qui étaient exilés, disons, exilés parfois depuis très longtemps. Hein. Il y a eu des. Surtout plus récemment, où du point de vue matériel, l'université chinoise est devenue de nouveau relativement attractive et où on fait des efforts pour inviter des gens qui ont acquis un certain prestige. Il y a effectivement. Et puis de toute façon, il est devenu tellement facile aujourd'hui d'aller et venir, de vivre globalement, disons, plutôt que d'être installé dans un pays ou l'autre. Donc vous avez des collègues d'origine chinoise qui continuent de faire des carrières américaines, par exemple, mais qui se partagent maintenant entre la Chine et l'Amérique. Ça, de ce point de vue, l'ouverture est complète.
Et vous-même, avez-vous conduit un enseignement en Chine?
Non, jamais. Non, j'avais déjà assez d'enseignements ici à Paris. Donc j'y suis allé pour mes recherches, pour des rencontres, pour des choses comme ça. Mais
est-ce que certains de vos cours ont été reçus en Chine, comme par exemple celui sur les ingénieurs philanthropes et seigneurs de la guerre?
J'ai rencontré des gens qui s'intéressaient au sujet, ça oui. Mais les cours eux-mêmes, dans la mesure où... je ne sais pas s'ils ont jamais été... Si, est-ce qu'ils étaient accessibles sur Internet à l'époque? Je ne sais pas. Mais il faut voir aussi une chose, c'est que pour être reçu en Chine, il faut être parlé ou être publié dans une langue comprise en Chine. Donc,
c'est-à-dire l'anglais.
Le chinois, l'anglais un petit peu et le chinois essentiellement. Et si je mesure, disons, dans la mesure où je peux le mesurer, mais où j'ai senti que les gens, enfin dans la profession bien sûr, savaient qui j'étais, ça a commencé un petit peu grâce à mes publications en anglais, et ça a commencé beaucoup plus sérieusement grâce aux choses traduites en chinois. Et où je suis devenu un nom que les gens connaissent, quoi, sans, mais sinon...
Quels sont vos travaux traduits en chinois, Pierre-Tienne?
Il y a eu un certain nombre d'articles, je ne saurais pas vous donner la liste de tête, mais enfin quelques articles que je considère comme importants ont été traduits en chinois, sont parus dans divers endroits, et puis surtout c'est le livre que j'ai publié qui était en fait mon premier livre et ma thèse, et comme me l'ont dit beaucoup de collègues et je pense comme eux, le meilleur travail qu'on fait dans sa vie c'est son premier travail, c'est sa thèse, parce que c'est la seule période d'une vie professionnelle où on est à peu près tranquille pour travailler.
Oui, c'est vrai.
Ça c'est absolument certain. Donc cet ouvrage qui...
Avec la retraite quand même.
Avec la retraite, oui, je pense qu'on retrouve un peu de cette
liberté,
tranquillité avec la retraite. Oui. Mais donc cet ouvrage sur lequel repose une bonne partie de ma réputation international, si vous permettez cette expression pompeuse, surtout depuis qu'il a été traduit en anglais en 90, l'ouvrage lui-même est paru en 80 et en français, donc en anglais, il avait déjà été lu pas mal, mais enfin le nombre de gens, de collègues étrangers qui lisent le français est quand même est limité. En anglais, là il a été...
Son titre
Bureaucratie et famine au XVIIIe siècle. Et la traduction chinoise, qui a été retardée d'ailleurs par des problèmes qui, pas du tout politiques, mais purement pratiques, qui n'ont pas d'importance, la traduction chinoise est sortie en 2000. Donc c'est assez... Non, avant 2000, en fait. Enfin, à la fin des années 90, je dirais. Oui, je ne sais même pas par cœur la date de publication en chinois. Et elle a été faite à partir de la version anglaise, qui était un peu révisée par rapport à la version française. En tout cas, ce bouquin est paru dans une série spécialisée dans les traductions d'ouvrages académiques, d'ouvrages universitaires sur la Chine, traduction essentiellement de l'anglais. Une série qui est publiée par les presses du Jiangsu, je crois, à Nankin, me semble-t-il, oui, j'en suis même sûr. Donc, et cet ouvrage a été lu, réédité, semble-t-il, une fois que c'est publié, vous n'avez plus aucune information sur les ventes, les tirages, les réimpressions, tout ça, il disparaît du radar. Mais je sais que, on me l'a dit récemment d'ailleurs, qu'il y avait une nouvelle impression, parce qu'on vend beaucoup en Chine. Il faut rajouter un zéro par rapport aux ventes, aux diffusions que nous avons en France. Un zéro, peut-être deux des fois. Et donc il a été commenté, etc. Enfin, il fait partie du stock de choses que les gens connaissent. Thank you.
Vous avez beaucoup travaillé, Pierre-Étienne Ville, sur des textes administratifs et des règlements. Alors, on a l'impression que tout cela est vraiment très aride. D'ailleurs, votre thèse porte sur bureaucratie et famine en Chine au XVIIIe siècle.
Je suis parti d'un problème historique et je n'en suis pas parti comme ça parce que dans ma tête je m'étais dit c'est ça que je vais faire, mais parce que j'étais tombé, c'était au début des années 70, j'étais tombé sur une source exceptionnelle et c'est ça qui m'a orienté vers l'étude. Alors à l'époque de la famine et plus exactement des politiques et des stratégies adoptées par l'État impérial chinois au XVIIIe siècle contre la famine. Et c'est de là que tout est, enfin que beaucoup est parti. Et donc je me suis tout de suite tombé sur des textes. Même cette source dont je vous parle, c'était des rapports administratifs, mais qui n'étaient pas du tout secs nécessairement, qui au contraire décrivaient enfin l'accumulation de tout ce qu'on y trouvait, même si c'était dans les formes du discours administratif qui est bien balisé en Chine, dans la Chine impériale. Décrivait une situation, au contraire, une sorte de drame humain et une situation d'urgence, des mesures prises un peu dans la panique et enfin une mobilisation générale sous la supervision de l'empereur. Enfin, c'était un peu les conditions optimales d'une opération de secours contre la famine dans l'histoire chinoise qu'on rencontrait dans cet exemple et qu'on rencontre dans plusieurs autres exemples, en gros à la même époque, c'est-à-dire au XVIIIe siècle. Et donc c'est de là que ce travail a eu des prolongements, alors dans le domaine en effet de l'étude du gouvernement et de l'administration. Mais ce n'est pas du tout un domaine aride et austère, sauf si évidemment vous intéressez, ce qui peut même être intéressant, enfin disons divertissant, mais enfin sous certaines conditions quand même, même si vous vous intéressez aux documents administratifs proprement dit, c'est-à-dire sans incidence politique, disons, sans
incidence. Vous êtes bien obligé de passer tout de même par ce type de
texte.
Oui,
tout à fait. Oui, bien sûr.
Pour conduire ce travail.
Non, je pourrais vous citer l'exemple récent d'un travail tout à fait extraordinaire d'une collègue qui s'appelle Helen Dunstan, un travail qui va paraître incessamment et que dans une revue dont je m'occupe, cette collègue qui a une force de travail que je n'ai pas toujours, a dépouillé des rapports financiers qu'on trouve dans les archives du gouvernement central, mais elle en a dépouillé des centaines, et de ces chiffres accumulés ressort en effet une stratégie, enfin, toutes sortes de renseignements tout à fait passionnants.
Ah, mais c'est certainement très éclairant, en effet.
Cela dit, le travail lui-même, et elle le dit elle-même, bien sûr, le travail proprement dit de dépouillement, de mise en... C'est un travail extrêmement aride et qui demande une grande dévotion au métier. Mais c'est pas le genre de... Enfin, j'ai un peu fait ça aussi, mais je me suis beaucoup plus dirigé vers tout ce qui était un de mes grands domaines de recherche depuis 20-25 ans facilement. C'est toute la littérature pédagogique pour les agents de l'État chinois, toute la littérature dont ils se servaient aussi pour faire leur métier et dont j'ai vraiment parcouru des centaines et des centaines de titres. Pour une sorte de grande bibliographie descriptive qui sert à beaucoup de gens d'ailleurs. Grâce à l'informatique et à Internet, je fais circuler mon manuscrit partout et donc sans attendre la publication, c'est un travail qui aura déjà énormément servi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à travers tout cela, on découvre un monde très vivant, avec tous ses problèmes.
Très organisé.
À la fois organisé et désorganisé, où c'est souvent la pagaille, où l'improvisation, où il y a des personnalités de toutes sortes, des gens qu'on désigne comme exemple à ne pas suivre, ou au contraire comme exemple à suivre. Etc., etc. Donc tout ça a été en effet a occupé une grande partie de mon temps depuis longtemps. Et la connexion avec l'autobiographie, je crois que vous faisiez allusion à mes cours sur la littérature autobiographique, la connexion n'est pas existe dans la mesure où un certain nombre de de ces administrateurs qui écrivaient pour leur père essentiellement, ont également laissé des écrits autobiographiques.
Bien, on pense à Liu Dianfien, par exemple, dont vous nous parliez dans vos derniers cours.
Oui, donc ces gens ont laissé des écrits extraordinairement vivants, et parfois, alors qu'ils vous mettent tout d'un coup en plein dans le cambouis, si je puis dire. Et vous voyez la vie quotidienne des administrateurs, toute leur petitesse, etc. etc.
Ben, c'est magnifique ce journal que vous avez trouvé, ce journal de Liu Dianfien entre 1908 et 1911.
Oui, ça c'est un exemple.
Ça c'est une perle. Où est-ce que vous avez trouvé ce manuscrit?
Je ne sais plus comment j'ai trouvé
la
référence.
Parce qu'au fond, vous étiez... C'est quelque chose que personne ne connaissait.
Enfin, que
c'est une découverte que vous avez faite.
Enfin, une découverte, ça a été publié dans un de ces immenses recueils de reprints qu'on publie en Chine. Donc, parmi des dizaines ou des centaines d'autres titres, c'est dans une très grande collection que on a reprinté ce texte qui, en effet, que je n'ai jamais vu mentionné ailleurs. Et ça, il faut dire que quand on dit découvrir, c'est souvent découvrir des choses qui existent, qui sont publiées, que vous pouvez acheter, mais
dont personne.
Mais dont jusqu'à présent personne
n'a vu l'intérêt.
Oui, vous n'avez. C'est pas un grand texte. Et c'est pas. Effectivement, j'ai essayé d'en extraire beaucoup. J'ai pu en extraire beaucoup de choses, surtout en le mettant en contexte, donc dans le contexte de la province du Sichuan dans les années ultimes du régime impérial. Mais il y a d'autres. J'ai parlé en cours et j'ai par ailleurs utilisé d'autres textes autobiographiques de bureaucrates qui sont beaucoup plus libres de ton et qui sont moins on a moins besoin, disons, de lire entre les lignes pour voir une idée de la vie, se situer plus proche de la vie réelle.
Alors, est-ce que vous auriez l'intention de publier ce cours magnifique, d'ailleurs, que vous avez conduit quand même depuis plusieurs années maintenant?
Vous parlez du cours sur
l'autobiographie, les rapports entre l'autobiographie et l'histoire. Est-ce que ça permet au fond d'avoir un contact tellement vivant avec ce qui se passe? On fait connaissance, on rencontre des gens à travers le regard de ces hommes qui ont écrit ces autobiographies.
Oui, alors j'ai fait 5 années de cours, je crois, sur ce thème, et dont les 3 premières étaient justement portées sur le XVIIe siècle, sur la période de transition entre la dynastie des Ming et des Qing, c'est-à-dire une période où il y avait une certaine libération de la parole ou de l'écrit dans certains milieux. Et c'est pour ça que je m'y suis tellement attardé, mais c'est quand même assez unique dans l'histoire de la littérature autobiographique en Chine. C'est une période, à mon avis, qui n'a pas d'autres exemples, sauf alors peut-être à l'époque républicaine, dans les années 20 et 30.
Mais enfin, il faut dire que les destins étaient complètement bouleversés.
Oui,
et donc,
ce sont des gens qui vivaient dans une période de crise et qui en étaient conscients.
Apocalyptique.
Qui est devenue apocalyptique à un certain moment, on peut le dire. Et donc, il y a énormément de témoignages et de journaux d'autobiographies proprement dites.
Vous n'avez pas l'intention de nous faire connaître ces textes, de les traduire, de les porter à la connaissance du grand public?
Tous ne sont pas inconnus. C'est vrai qu'il n'y en a très peu qui ont été, pratiquement aucun n'a été traduit en français en tout cas. En anglais, il existe au moins une anthologie par une spécialiste qui s'appelle Lynn Struve, qui est vraiment la personne qui probablement connaît le mieux cette période de transition et son historiographie, mais sans plus. Et il y a en effet matière à faire des travaux. J'ai quelques idées de traduction que je voudrais faire. Sachant que la traduction est un exercice vraiment difficile parce que dans ces textes, c'est rare qu'on ne tombe pas sur de vraies difficultés. Et quand vous publiez une traduction, vous devez en principe avoir tout compris. Mais cela dit, non, c'est tout à fait faisable à condition d'avoir le temps. Mais j'ai un ou deux projets, en effet. Mais sinon... alors vous parlez de publier des cours, ça c'est une question intéressante. Les cours en eux-mêmes, à mon avis, ne sont guère publiables tels quels sous forme de livre. Ça a été fait récemment, et c'est une expérience intéressante, avec plusieurs années de cours de Pierre Bourdieu, qui ont été publiés vraiment de façon...
Il y a aussi les cours de Foucault, par exemple.
Oui, oui, oui. Mais ça,
il y a pas mal de cours qui sont publiés.
Certains ont
qui
été publiés, mais à mon avis, c'est d'une lecture difficile.
Oui. Vous pourriez remanier certains... En tout cas, cours sur l'autobiographie qui est très intéressant,
oui,
et vraiment palpitant d'une certaine manière. On prend un contact vivant avec... avec les gens qui ont vécu au moment de cette autobiographie. Et puis, il y a aussi ce personnage central qui est magnifique, Lijay, l'ingénieur.
Oui, alors là c'était une autre série. Ça, c'était la série sur les ingénieurs et les philanthropes.
Oui, mais vous en parlez aussi dans l'autobiographie.
Oui, donc, exact. J'en ai parlé même de façon ultime dans le dernier cours, les deux derniers. Et j'y avais fait allusion plus tôt. Oui, oui, en effet, vous avez raison. Lijay a écrit une autobiographie. Alors, qu'est-ce que j'appellerais une autobiographie républicaine ou de l'époque républicaine, c'est-à-dire à une époque où il n'y avait plus aucune... qu'il n'a pas publié, d'ailleurs, c'est un manuscrit qu'on a retrouvé dans ses affaires. Mais enfin, c'est une époque où il n'y avait plus aucune opposition à parler de façon extrêmement libre de sa vie, de ses expériences, etc. Et où, disons que tous les poncifs de la vie morale et familiale qui encadraient assez sévèrement la plupart des écrits autobiographiques de l'époque traditionnelle, enfin jusqu'au début du XXe siècle, étaient en partie tombés. Mais cela dit, en effet, cette autobiographie, qui est un fragment autobiographique en fait, qui s'arrête, c'est ses 30 premières années, de ce personnage par ailleurs dont j'ai énormément parlé dans ma série.
C'est un personnage passionnant.
Oui,
parce
oui,
que,
oui, Austin,
et d'abord, il est issu quand même d'une paysannerie très pauvre,
oui,
autodidacte. Il apprend les mathématiques par les livres. Enfin, c'est
oui,
magnifique.
Oui.
Et au fond, il va finir ingénieur. Et il va dans... Alors, on retrouve dans ces derniers cours que vous avez donnés,
oui,
la suite est au fond donnée par les cours que vous aviez
fait. Oui, oui, tout à fait. Oui, en effet,
dans
la série de cours sur ingénieurs, philanthropes et seigneurs de la guerre,
oui,
qui est vraiment une série que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire.
Ah oui, mais que j'ai eu beaucoup de plaisir à entendre. Enfin, je sais que les auditeurs ont vraiment beaucoup aimé cette
oui,
série. Parce qu'elle était surprenante, en fait, aussi.
Ah oui, ça, certainement.
Des personnages romanesques à tous les coins de rue, enfin, à tous les chemins.
Alors, à l'époque des seigneurs de la guerre, est certainement une des plus pittoresques.
Les seigneurs de la guerre sont des personnages romanesques,
oui,
les philanthropes sont des personnages romanesques, oui, et les ingénieurs dans Lijay sont des personnages aussi romanesques.
D'une certaine manière, oui. Donc, dans cette série, en effet, Lijay était un personnage assez central, et c'est un personnage remarquable et vraiment passionnant, et qui a laissé beaucoup d'écrits, et sur lequel il y a eu beaucoup de témoignages. Donc, je l'étudiais, mais dans sa dimension professionnelle. Donc, alors que, en effet, son autobiographie ne parle pas du tout de ça. Enfin, elle s'arrête, en fait, à la révolution de 1911, donc quand il a 30 ans, et qui revient en Chine après avoir passé, est-ce que c'est 3 ans, je ne sais plus exactement, 2 ou 3 ans, comme étudiant ingénieur, justement, en Allemagne. Et donc ça, c'est l'autobiographie est une autre période et une autre dimension du personnage que celle que j'avais étudiée précédemment. Mais ce que je dirais, c'est que c'est un manuscrit inachevé, d'ailleurs, qui s'arrête quasiment au milieu d'une phrase, qui a été retrouvé, donc, semble-t-il, par sa veuve dans les papiers de Lijay, qui est mort relativement jeune, à 54 ans, chose comme ça, et qui a été publié par la suite, en fait, à Taïwan, longtemps après. Et donc, ça rapproche un peu ce texte d'autres textes dont j'ai souvent parlé dans mes cours, mais alors qui, eux, remontent au XIXe siècle et qui ont été également retrouvés sous forme de manuscrits, et qui étaient des textes dans lesquels les auteurs, si je puis dire, se lâchaient et écrivaient des choses sur leur milieu professionnel, sur leur famille, qui eussent été totalement inconcevables dans une autobiographie, disons, formelle, publiable. Donc, de ce point de vue-là, il y a une sorte de continuité entre cet écrit de Lijay, et qui est un, sans doute, parmi beaucoup d'autres. Enfin, c'est des choses dont on ignore l'existence le plus souvent. Et puis, certains textes, dont certains sont des trésors d'informations, qui remontent au XIXe siècle. Et puis ensuite, certains textes qui ont été publiés également souvent de façon très récemment, ou longtemps après avoir été écrits, remontant à la transition Ming-Qing, donc au XVIIe siècle. Donc c'est cette filiation qui m'intéresse. Enfin, cette filiation, pas en tant que filiation, mais c'est ce type de texte qui m'intéresse, parce que on a tout d'un coup des des aperçus totalement inattendus sur, enfin totalement inattendus, en tout cas qu'on attend au contraire beaucoup et mais qu'on ne trouve pas dans la littérature conventionnelle, sur la société chinoise, sur les milieux bureaucratiques, etc. Et je voudrais ajouter une chose à ce point de vue, de ce point de vue, donc la recherche sur des dimensions normalement camouflées ou en tout cas passées sous silence, des comportements et des habitudes, c'est qu'il y a un autre type de source auquel je me suis beaucoup intéressé de façon plus récente et qui est également qui procède de enfin qui, dont l'étude est la conséquence de cette étude sur l'État et les bureaucrates chinois qui était un peu au centre de mon travail, ce sont les sources judiciaires et sur lesquelles je n'ai pas fait de cours, mais j'ai fait en revanche plusieurs séminaires et j'ai quelques publications en cours. Par sources judiciaires, j'entends soit des dossiers qui ont été des dossiers d'affaires judiciaires qui ont été conservés dans les archives et que pas mal d'auteurs ont déjà étudié, soit des jugements qui ont été publiés en assez grande quantité depuis la fin des Ming, donc depuis disons depuis le début du XVIIe siècle, et qui sont en fait des récapitulations d'affaires criminelles ou civiles, ou parfois de simples disputes, suivies, conclues par un jugement. Mais en cours de route, on voit les gens se comporter comme ils se comportent effectivement dans la vie réelle, et c'est parfois assez extraordinaire. Et à cela s'ajoute un type de texte dont j'ai parlé également plus récemment, alors où on rejoint un peu la dimension autobiographique, puisqu'il s'agit de recueil de leurs affaires judiciaire publié par des fonctionnaires. Donc, un auteur raconte une sélection des affaires intéressantes qu'il a eu à traiter, mais il les raconte non pas en reproduisant les documents administratifs qu'il a produits, donc le jugement final en l'occurrence, ou certaines communications avec les plaignants en cours de procédure, mais reconstruit un récit à la première personne, où il n'est pas un simple rouage de la machine administrative qui parle de lui-même à la troisième personne en disant le présent fonctionnaire a fait ceci et cela et en parlant de lui-même le moins possible, mais au contraire où il parle de lui en disant j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai eu des doutes, et où il reproduit les interrogatoires de façon extrêmement vivante parfois, ainsi que, et là vous avez très souvent, tout est relatif parce qu'il n'y a pas tellement de ces textes, mais enfin, très souvent dans ces textes, vous avez l'impression de vraiment tout d'un coup d'entrer dans la société réelle, y compris celle des gens les plus modestes, avec vraiment un feeling de l'environnement matériel, de la façon dont les gens se comportaient, bien ou mal, la vie sexuelle. Ça, c'est une chose qui est complètement camouflée dans la littérature autre que poétique ou romanesque en Chine. Mais là, dans les sources d'origine judiciaire, ça apparaît tout d'un coup sous une lumière extrêmement crue. Je veux dire, toutes les entorses au modèle confucéen, la femme isolée des hommes, c'est comme chez nous, hein, le mariage sacro-saint, etc., etc. Et vous apercevez qu'en fait, il y avait une, comment dire, je ne sais pas s'il y a eu des différences, peut-être qu'il y a-t-il eu des différences par époque, mais vous avez une vie beaucoup plus normale et aventureuse qu'on pourrait le croire, et parfois un peu scandaleuse, en particulier à l'intérieur des familles ou des clans, qu'on ne pourrait le soupçonner. Par exemple, vous avez une particularité, malgré tout, mais qui a été relevée depuis longtemps par les historiens, du XVIIIe siècle, qui est la multiplication et une beaucoup plus grande visibilité d'un groupe d'hommes non mariés. Il y a des explications démographiques qui sont assez simples au fait qu'il y a eu une proportion croissante d'hommes qui n'avaient pas les moyens. D'abord, il y avait moins de femmes que d'hommes, pour des raisons, encore une fois, de comportement démographique, mais également pour des raisons purement économiques, n'arrivaient pas à se marier. Donc c'était une population souvent de travailleurs itinérants qui étaient considérés, et ça on le voit bien dans les textes judiciaires, comme de potentiels prédateurs sexuels, et qui effectivement cherchaient l'aventure, trouvaient souvent l'aventure en tout cas dans ces affaires qu'on trouve dans les sources judiciaires, trouvaient l'aventure dans la famille ou l'endroit où ils avaient du travail, et où toutes sortes de choses tout à fait extraordinaire se passait. Et ça, effectivement, il n'y a que dans ce genre de sources que vous le voyez. Donc ça, ce sont des sources qui ont une origine immédiatement étatique, bureaucratique, et qui parlent de choses qui sont exactement l'opposé.
Est-ce que vous avez l'intention, Pierre-Étienne Ville, d'éditer un certain nombre de textes, puisque maintenant vous êtes finalement à la retraite, comme on dit. Du coup, vous aurez enfin le temps de mettre en place toutes ces choses qui devraient être éditées, qui devraient être portées un peu à la connaissance publique, dans la mesure où les études chinoises aujourd'hui ne se portent pas très bien en France. Cela dit, l'orientalisme ne se porte pas si bien que ça. D'ailleurs, on peut dire que les études chinoises, mais les études persanes, arabes, etc., se portent assez mal en France aujourd'hui. Et ce genre précisément de publication pourrait remettre au goût du jour l'envie de faire du chinois et de s'intéresser à la Chine autrement que dans ces histoires de marché, fabrication d'objets, etc.
Oui, oui, vous savez, non, on n'a pas besoin de m'attendre pour s'intéresser à la Chine comme ça. Il y a déjà un très grand intérêt. Et en fait, les études chinoises au sens large ne se portent pas si mal, en fait.
Et, en France, vous trouvez ?
Oui, enfin, elles se portent pas mal. Je veux dire qu'il y a le nombre d'enseignements. Par exemple, je viens de découvrir, il y a quelques jours, qu'il existait, par exemple, un enseignement déjà bien relativement organisé à l'université de Grenoble, je ne savais même pas, puisqu'un de nos jeunes collègues vient d'y être nommé.
Enfin, dans les lycées, le chinois est encore langue rare, ce qui quand même...
Oui, mais même dans les classifications de l'éducation nationale, du comité national des universités, le chinois est en effet classé parmi les langues rares.
Bon, comme l'arabe d'ailleurs.
Voilà, parlons...
Alors que ce sont quand même...
N'insistons pas sur ce côté un peu ridicule, mais... Non, le chinois et l'enseignement du chinois dans les lycées est très populaire. Un de mes anciens étudiants qui a passé l'agrégation de chinois, qui s'est retrouvé professeur dans je ne sais plus quelle banlieue à Paris, était surchargé.
Et, ah oui,
oui, oui, d'étudiants, d'élèves, de demandeurs, etc. Et d'une manière générale, il y a une grande, c'est récent, hein, mais une grande popularité, même si elle n'a pas atteint cette, même s'il n'y a pas eu ce phénomène de folie soudaine qui a atteint l'étude du coréen récemment.
Ah bon ?
Oui, le coréen, les enseignants sont totalement débordés. Enfin, il y a une sorte de folie sur le coréen qui remonte à peut-être 1, 2, 3 ans, pas plus. Il n'y a pas eu cet accès, disons, dans le cas du chinois, mais il y a eu un très grand progrès. Enfin, dans l'intérêt pour la Chine. Alors, c'est d'ailleurs un facteur parmi beaucoup d'autres, c'est l'action culturelle de la Chine. Ce sont les fameux instituts Confucius qui s'efforcent justement de diffuser l'enseignement de la langue et aussi de la civilisation. Et alors là, c'est là qu'on rencontre certains problèmes ou qu'il faut savoir de quoi on parle, dans la mesure où, comme la plupart d'ailleurs des pays, la Chine, mais peut-être plus que d'autres, la Chine cherche à projeter évidemment une image entièrement positive et parfois, pour dire le moins, très idéalisée de sa civilisation et de son histoire. Ce qu'on a vu par exemple dans le Barnum de l'inauguration des Jeux Olympiques, où il s'agissait de... Et ça a marché un peu, de projeter de l'histoire de la civilisation chinoise une image, comment dire, irénique, profondément civilisée, etc. Alors que, bon, l'histoire de la Chine est pleine de...
Est-ce que c'est pas une tendance générale dans le monde entier
Dans le cas de la Chine, c'est à mon avis, c'est spécial. Parce
qu'on a tous tendance, quand il y a des événements de ce genre, à faire du Disneyland avec des contes...
Oui, non, ça, on fait
des
du
contes à dormir debout.
Oui, enfin... on fait du Disney. Oui, ça, c'est vrai. Mais malgré tout, il n'y a pas cet effort. Je veux dire, dans le cas de la Chine, il y a quand même un effort pour combattre une image qui a été nourrie par quand même plusieurs décennies d'agressivité communiste, et puis une image d'un pays qui reste un pays, qu'on aime le dire ou non, qui reste un pays policier, et où les libertés civiles, sinon les libertés pratiques, comme disaient certains Européens dont j'ai parlé dans mon cours, se sont développées énormément en Chine depuis 30 ans, ça c'est sûr. Mais malgré tout, l'image négative d'un pays qui reste un pays autoritaire, pour employer un mot, le mot le plus modéré qu'on puisse employer dans ce cas, il cherche justement à la combattre en montrant une Chine sympa, si vous voulez. Alors là, il y a un risque, disons, il faut bien être conscient de ce côté. Alors évidemment, en tant qu'historien, c'est plutôt les choses un peu plus violentes ou réelles ou moins idéalisées qui m'intéressent. Voilà ce qu'on peut dire, mais non, donc l'enseignement, je vous dis, l'enseignement français des études chinoises, universitaires cette fois-ci, à mon avis, se porte plutôt nettement moins mal que dans certains pays voisins, en termes de nombre de postes, de possibilités d'emploi, etc., même si ce n'est pas idéal. Donc il y a peu à peu une sorte de diffusion de ce savoir. Enfin, tout ça pour dire que ça n'est pas à moi à faire découvrir la Chine au public, bien sûr. Mais en revanche, certaines des choses sur lesquelles j'ai travaillé méritent en effet de s'ajouter au répertoire.
Ah mais oui, parce qu'on découvre justement une Chine concrète, intelligente, astucieuse, enfin, au fond, beaucoup plus proche de nous qu'on l'imagine, et en même temps beaucoup plus, bien plus différente.
Oui.
Et donc ça nous oblige, quand on écoute vos cours, à nous déplacer par rapport à l'attitude qu'on peut avoir par rapport à l'altérité générale, enfin...
Alors d'abord pour les cours, comme il y a une chose que là je fais vraiment ma propre publicité, que je voudrais profiter de cette occasion pour la dire, c'est que ces cours que j'ai toujours, bon c'est comme ça, hein, je les ai toujours écrits de façon écrite, quoi. Ce sont des textes qui peuvent être lus. Je faisais allusion tout à l'heure à la publication des cours de Bourdieu, et dans son cas c'était à peu près la même chose. Pas tout à fait autant peut-être, mais donc ça rendait possible une publication. Donc mes cours sont écrits, j'y reviens régulièrement, sans arrêt, je revérifie une chose que j'avais dite il y a 15 ans, ou j'ajoute une note, etc. Donc c'est un travail...
Donc vous les mettez à jour.
Oui, c'est un travail vraiment vivant dans sa globalité, ça s'est trouvé comme ça. C'est comme ça que je fonctionne. Et autant l'idée de les publier, je crois qu'il faudrait que je sois plus célèbre que je ne le suis pour qu'un éditeur accepte cette idée un peu bizarre du point de vue éditorial. En revanche, une partie, les fameux cours, fameux dont nous parlons tout à l'heure, sur les ingénieurs, etc., sont en ligne déjà.
Sur Internet, sur votre site Collège de France,
Et très vite, je mettrai l'ensemble, la totalité.
Quelle bonne idée.
Elle sera accessible. Et puis, comme vous disent tous les spécialistes vraiment connaisseurs de l'informatique, surtout, imprimez tout. Et c'est ce que je ferai.
Imprimez tout, parce que ce n'est pas du tout sûr que les choses se maintiennent et se gardent avec Internet.
Un orage magnétique, de nouveaux systèmes informatiques qui font que... C'est une expérience que nous avons tous déjà. Hein,
oui, bien sûr.
Que vous ne pouvez pas, vous pouvez plus utiliser vos travaux d'il y a 20 ans.
Oui, exact.
Voilà, donc ça, c'est rien ne vaut une bonne version
papier. Une
bonne papier,
version papier.
Qui sera donc conservée dans nos bibliothèques, etc. Autrement dit, ce travail de cours, ce ne sont pas du tout des paroles qui s'envolent, d'autant moins que je suis revenu pour faire certaines corrections, certaines précisions. Il y a des choses que j'ai dit dans un cours, et puis quelques années après, je m'aperçois que je m'étais complètement trompé, ou que je trouve des nouvelles sources très importantes. Donc je m'arrange pour que tout ça se retrouve dans cette version écrite dont je vous parle, et qui sera toujours accessible. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'on peut toujours publier sur la Chine, mais encore faut-il que les gens vous lisent, c'est-à-dire qu'ils lisent ce que vous écrivez.
Oui.
Et une chose qui m'a énormément frappé, mais depuis toujours, c'est... Bon, d'abord, j'ai souvent rencontré des gens qui disent « Ah, mais qu'est-ce que je pourrais... » Par exemple, des gens qui partent en voyage en Chine. « Qu'est-ce que je pourrais lire ? Il n'y a rien. » Alors je dis « Mais bien sûr qu'il y a... » En français, il y a des tas d'ouvrages. Le bon chinois de M. Gernet est paru il y a quoi ? Il y a 40 ans maintenant, je pense, avec de multiples... vous le trouvez dans toutes les librairies, etc., etc. Donc, il y a des choses de très bonne qualité disponibles, mais il faut vraiment les mettre entre les mains des gens pour qu'ils y fassent attention. Et ensuite, quand ils disent des choses, ils ont souvent... Enfin, le public... mais bon, je ne méprise pas le public et je fais la même chose souvent, tout en étant beaucoup plus conscient malgré tout du problème, ont tendance à lire ce qu'ils veulent lire. C'est-à-dire que l'image justement un peu idéalisée d'une Chine avec sa grande tradition, son histoire soi-disant de 5000 ans, etc., etc., et ses religions tellement humanistes ou même babacool dans certaines interprétations, cette image est extrêmement résistante même aux ouvrages les plus qui se veulent le plus réalistes. Donc c'est un effort de communication. Non pas au sens commercial du terme, mais vraiment de pédagogie, je dirais, qui en effet n'est jamais terminée. Voilà, donc effectivement, il y a beaucoup à faire, comme vous le dites.
Vous vous rendez souvent en Chine, Pierre-Étienne Ville ?
Oh, régulièrement, à peu près, au moins une fois par an, oui. Et puis, il n'y a pas que la Chine, il y a aussi Taïwan, où je vais beaucoup, où les moyens sont considérables, et où j'ai beaucoup de collègues que je connais bien. Plus le troisième pays, il y a Hong Kong, mais là, Hong Kong, je n'ai pas vraiment d'habitude de travail. Plus un autre pays qui est un paradis de la sinologie et qui est le Japon, c'est par période, mais il y a des périodes où j'y suis allé très régulièrement.
Vous parlez japonais ?
Je peux lire le japonais. Non, je ne parle pas japonais. Enfin, je baragouine assez pour me débrouiller ici et là, mais non.
Souhaitons en tout cas que les études chinoises gardent le bel élan que vous leur avez donné, Pierre-Étienne Ville. Je voulais vraiment vous remercier au nom de tous nos auditeurs pour ces cours magnifiques que vous nous avez donnés. Et je crois que je suis très émue par ce départ.
Oui, ben moi aussi, je veux dire que c'était quelque chose de... C'était vraiment une nouvelle dimension de savoir que ce cours que je fais devant une salle où il y a quelques dizaines d'auditeurs, tout d'un coup, donc à partir du moment où, je ne sais plus d'ailleurs depuis combien d'années, France Culture a commencé à diffuser nos cours, tout d'un coup atteignait un public inconnu, mais émergent de temps en temps par des lettres que je recevais d'auditeurs. Donc il atteignait un public bien plus large et je suppose tout aussi intéressé que les gens qui se déplacent, qui ont les moyens ou le temps de se déplacer jusqu'au collège pour nous écouter pendant une heure par semaine. Donc ça a été... d'une certaine manière une expérience de savoir que cela existait. Je ne peux pas dire de m'écouter parce que je ne me suis jamais écouté, mais d'abord ce n'est pas des heures auxquelles j'écoute. Personnellement j'écoute la radio, mais j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, je t'ai entendu », y compris des collègues, des parents, des amis, etc. Donc c'est une très belle expérience, je pense. Et j'espère que vous me parliez tout à l'heure du problème posé par la multiplication des cours avec support visuel, donc fameux PowerPoint, qui pose effectivement un problème dans une diffusion radio. Absolument. Mais j'espère que malgré cela, vous pourrez continuer longtemps à fonctionner de la même façon, surtout sachant que... ces cours passent sur cette chaîne qui est une de nos fiertés, ça j'hésite pas à le dire, en France.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec ce soir Pierre-Étienne Ville, titulaire de la chaire Histoire de la Chine moderne. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation, Anne Sécheret. Présentation, Christine Goémé. Rendez-vous demain avec Pierre-Michel Menger, titulaire de la chaire de sociologie du travail créateur. Nous retrouvons tout de suite les Nuits de France Culture. Belle écoute à tous.